Alors, quand j'ai vu le texte pour aujourd'hui dans l'évangile de Matthieu, en fait, qui fait suite à dimanche dernier, j'ai pensé que c'était un bon exercice pour envoyer quelqu'un en mission. Mais c'est le genre de texte, peut-être, dont je me serais passée, ou en tout cas dont l'interprétation a beaucoup varié dans l'histoire et varie encore beaucoup aujourd'hui. Alors, quand on est chrétien d'aujourd'hui, on peut se retrouver plus ou moins dans ces passages. Mais quand je pense au fait de devenir pasteur, eh bien, on s'y retrouve peut-être un peu plus. En effet, quand on prend le chemin du ministère, cela ne fait pas toujours plaisir à certaines personnes de la famille. Je ne vous dirai pas la réaction de mon père quand je suis allée annoncer ça à mes parents. Ce qui fait la joie de l'Église, eh bien, ne fait pas forcément la joie dans nos relations. Et la semaine dernière, nous étions donc tout le consistoire ensemble rue de Grenelle, dans le foyer de Grenelle, pardon, et le pasteur Robert Chébec, ce pasteur part de la paroisse de Passy-Annonciation pour aller dans le sud, eh bien, il a présenté vraiment ce message avec toutes ses difficultés, sans rien cacher de toutes ses difficultés. Jésus vient par exemple séparer les gens de la maison. Et en fait, notre passage continue en disant « Celui qui aime, on se positionne différemment si on croit en Jésus-Christ. » Et c'est vrai que quand on reçoit des amis à la maison, il y a en général deux sujets qu'on évite pour ne pas se fâcher, c'est la politique et la religion. Alors notre passage termine le chapitre 10 qui est complètement consacré à la mission. Au début de ce chapitre, Jésus fait venir ses disciples, on a le nom des 12 disciples, et il les envoie sur les chemins de Palestine pour proclamer le règne de Dieu, pour guérir des malades et faire d'autres miracles. Mais à cet envoi des disciples, succède immédiatement la persécution. Ça ne donne pas très envie en fait. Il faut juste se souvenir que ces textes ont été écrits après la mort et la résurrection de Jésus. À ce moment-là, les apôtres ont largement commencé le travail d'évangélisation, ils ont commencé le travail d'édification des églises, et dans les années 80, qui est à peu près l'époque où on date l'écriture de Matthieu, de l'évangile de Matthieu, les persécutions ont largement commencé. C'est une réalité au moment où ce texte est écrit. Et puis, juste après les persécutions, Jésus dit de ne pas avoir peur. Ne craignez pas, ne les craignez donc pas. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Même vos cheveux sont tous comptés. Et en effet, dans le texte donc de clôture de ce chapitre, Jésus ne cache pas la difficulté de la tâche. Et il a des mots qui nous paraissent difficiles. Qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Si jamais il y a des enfants et des parents dans la salle, ça va être compliqué. Il faut se souvenir que ses disciples étaient juifs. Alors on peut penser aux familles des disciples qui voient partir leur fils vers cet homme qui est censé être juif, et pourtant Jésus ne respecte pas un certain nombre de choses aux yeux des religieux juifs, comme par exemple le sabbat. Et puis Jésus dit aussi que sa mère, ses frères, ses sœurs sont ceux qui respectent la volonté de Dieu, qui écoute sa parole. Mais j'aime bien, quand Jésus dit quelque chose, j'aime bien regarder comment il a fait, parce que c'est souvent ses actes qui témoignent de ce que ça veut dire. Alors on peut faire le lien avec un des premiers miracles de Jésus, vous vous souvenez peut-être, un tout petit passage, il va guérir la belle-mère de Pierre. Donc Pierre, un de ses premiers disciples, il avait donc sans doute une femme, puisqu'il avait une belle-mère. Et donc Jésus est invité chez Pierre, on ne lui demande rien. Mais on nous dit, Jésus va guérir la belle-mère de Pierre et ensuite elle peut les servir, retrouver son rôle de femme à l'époque. En tout cas, la bénédiction de la foi d'un seul, en tout cas la foi d'un seul permet de bénir toute la famille. C'est ça qu'il faut avoir en tête quand on lit ces textes-là. Il faut simplement choisir le Christ, Être attentif aussi aux loyautés familiales qui peuvent nous empêcher de croire en lui ou de mettre en pratique notre foi en lui. Bien sûr, notre tissu familial est essentiel, on en a besoin. Il est parfois vital, mais en restant attentif à cette relation que nous apporte Jésus. Jésus rappelle quand même aux disciples qu'ils suivent un homme qui va connaître la croix, c'est-à-dire un supplice romain insupportable. Qui ne se charge pas de sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Et cela, on peut le comprendre qu'après la mort de Jésus, parce que la croix, c'est en même temps la mort, terrible, mais en même temps la résurrection. Notre croix est nue, Jésus est ressuscité. Donc quand on dit porter sa croix, ben peut-être qu'il faut aussi penser aux deux choses. La souffrance, parce que dans notre vie humaine, on a des luttes, mais que ce n'est pas la fin, il y a autre chose après, il y a cette vie relevée, la vie donnée. Et pour dissiper les mauvaises interprétations possibles, je veux préciser qu'il ne s'agit pas de chercher la souffrance pour montrer qu'on suit Jésus. Ce n'est pas un préalable à la suivance de Jésus. Quand on suit Jésus, ben, il se trouve qu'on va peut-être souffrir, on va peut-être lutter. Et puis dans le texte, il y a une redondance sur la place qu'occupe le disciple. En grec, il est écrit, Jésus dit, il faut suivre derrière moi. Alors évidemment, ce n'est pas repris par le français parce que c'est redondant, mais en fait, Jésus insiste sur le « derrière moi ». Évidemment, quand on suit quelqu'un, on est derrière, mais Jésus quand même insiste. Alors la première chose que j'y vois, c'est que rester derrière le Christ, eh bien, induit de l'avoir toujours devant les yeux, d'avoir les yeux sur sa vie et sur sa mort et la résurrection, toujours à tenir ensemble. Et c'est garder devant nous la manière dont Jésus a eu d'aimer les autres, porter sa croix. C'est ne pas se servir de notre propre force pour écraser les autres. Si par hasard on est dans une position de pouvoir, eh bien ce n'est pas s'en servir. C'est ne pas vivre les relations de manière autoritaire et possessive, mais c'est apprendre la non-violence, le respect des uns et des autres. Et puis c'est laisser à l'autre la liberté de dire oui ou de dire non. C'est assumer ma liberté de dire oui ou de dire non. Et la deuxième chose que j'entends, c'est qu'il n'est évidemment pas anodin de suivre un homme qui a été au bout de son engagement d'amour jusqu'à la mort. On le voit encore dans le monde. Bien des chrétiens sont persécutés. Il y a un site internet de l'association Portes Ouvertes et cette association recense tous les chrétiens persécutés dans le monde. Donc vous pouvez aller voir, il y en a des millions. Et récemment, je lisais aussi dans un journal un prêtre orthodoxe qui a dû fuir la Russie parce qu'il n'a pas voulu se plier à l'injonction du gouvernement russe de prier pour la victoire en Ukraine, donc au détriment évidemment des morts. Mais porter sa croix, ce n'est pas la porter tout seul. Et si on regarde comment Jésus a porté sa croix, physiquement cette fois-ci, eh bien, il était tellement faible qu'on a réquisitionné Simon de Cyrène pour la porter avec lui. Donc ça, c'est important aussi, de penser qu'on n'est pas seul. Et juste avant, dans le passage précédent, Jésus dit, au moment des persécutions, « L'Esprit de votre Père parlera en vous. » C'est-à-dire qu'il y aura l'Esprit Saint qui va nous être donné pour qu'on ne soit pas seul. Ensuite, le texte continue, et là, les différentes traductions hésitent à le traduire, vraiment, comme il est écrit. Dans la traduction œcuménique de la Bible, on a « Qui aura assuré sa vie la perdra ». Mais en grec, on a « Celui qui trouvera sa vie la perdra ». C'est étonnant. Et ensuite, « Et qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera ». Et en fait, cette phrase, Matthieu la remet quelques chapitres plus loin en utilisant le mot « sauver ». Peut-être que c'est ce qu'on connaît mieux. « Qui veut sauver sa vie la perdra » et « Qui la perdra à cause de moi la trouvera ». Le verbe trouver n'est pas très facile à comprendre. On pourrait dire aussi c'est garder sa vie pour soi, sans s'ouvrir aux autres. Alors dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup de sites de bien-être nous invitent à aller vers nous-mêmes. Les techniques de méditation fleurissent pour nous inviter à trouver notre être véritable. Mais suivre le Christ, c'est peut-être se connaître différemment. C'est important de se connaître. Et se découvrir soi-même, c'est une expérience de toute une vie. Découvrir pourquoi on agit ou qu'on réagit de telle ou telle façon. Découvrir quels sont nos vrais besoins. Discerner nos besoins avec les loyautés dont nous ne comprenons pas toujours l'origine, et des loyautés, par exemple, qu'on a développées pour protéger nos parents et qui nous ont forcés à nous renier nous-mêmes. En suivant Jésus, eh bien, nous avons une libération. Une libération de ce qui nous empêche de rejoindre. Alors, le mot psyché en grec peut être traduit par la vie, mais par l'âme aussi. On est invité à rejoindre notre âme. C'est se libérer de ce qui est mortifère. Par exemple, nos culpabilités, les non-dits que nous entretenons, ou le sens du devoir poussé à l'extrême. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. La force donnée par la foi en Jésus-Christ nous amène à changer de vie ou même changer des petites choses dans nos vies. Nous suivons Jésus qui a dit « Je suis la vie ». Vita Basset, la théologienne, dit « C'est le vivant » avec un grand V. Et souvent, ces textes nous rebutent parce qu'on les comprend à l'inverse comme un chemin de souffrance. Et pourtant, c'est à une vie plus vivante que Jésus nous convie. Mais ce n'est pas confortable. Cela demande du travail sur soi pour combattre ce qui fait obstacle à notre relation au Christ. Et puis, eh bien, cela demande aussi d'apprivoiser la solitude. Parce que la croix, porter sa croix, c'est aussi accepter la solitude pour traverser pleinement les difficultés sans les occulter. La solitude humaine est bien réelle et on sait que le sentiment de solitude a augmenté depuis le développement des réseaux sociaux. Solitude de celui qui tient sa position. Je me souviens de ce film sur Abraham Lincoln, ce président des États-Unis qui a présidé entre 1861 et 1865. Et dans ce film, on le voit très très bien, on le montre très bien en scène, dans cette solitude, où le moment où il faut qu'il prenne la décision cruciale pour l'abolition de l'esclavage. Bon, inutile de dire que Lincoln est mort assassiné. La solitude est féconde quand on peut prendre le temps d'aller vers soi-même, vers l'écoute de ses propres besoins, des besoins des autres, l'écoute de ses propres valeurs et du sens qu'on trouve dans telle ou telle décision. La solitude est féconde aussi quand elle permet à la prière de mûrir et de se développer. Jésus ne cache pas cette réalité ambivalente à ses disciples. Mais après avoir développé les conséquences de le suivre, à la fin, il parle de l'accueil. Il y a comme une chaîne de communion. Qui vous accueille, m'accueille. Et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Et dans cette phrase, Dieu est présenté comme celui qui envoie. Alors nous l'avons entendu avec l'histoire d'Abraham, Dieu est celui qui met en route les humains, qui les met en mouvement. Et les quatre évangiles insistent sur cet accueil. Accueillir Jésus, c'est accueillir Dieu. Il fallait que tous comprennent que Jésus ne vient pas de sa propre volonté et que c'est lui qui enverra son Esprit Saint sur les apôtres. Jésus n'est plus sur cette terre et il n'a que nous pour être ses témoins. Ce n'est que par nous que des personnes sauront que Jésus existe. Nous pouvons être tour à tour celui ou celle qu'on va accueillir et celui ou celle qu'on accueille, qui accueille, pardon. Comme le dit l'Épître aux Hébreux, n'oubliez pas l'hospitalité, car grâce à elle, certains, sans le savoir, ont accueilli des anges. Accueillir un prophète, c'est accueillir une personne reconnue comme apportant une parole venant de Dieu. Elle mérite des égards. Et puis on comprend bien l'image du verre d'eau fraîche, Le mot en grec, c'est le frais, froid même. Donner à un de ses petits. On comprend bien en ce moment qu'il fait chaud. L'expression des petits est une manière ainsi d'appeler les disciples et cela confirme le fait de venir désarmés. Aujourd'hui, peut-être que nous nous reconnaissons dans ces petits. Alors je souhaite que nous puissions toujours rester derrière le Christ. En gardant les yeux sur lui, nous sommes toujours remis sur les bonnes rails. Nous pouvons réfléchir dans le bon sens. Et comme notre maître, nous pouvons être accueillis dans la fraternité. Amen.